Parole rurale, l'émission de reportage à la rencontre des paysans qui nous entourent.
Ou le quotidien en milieu rural raconté par ceux qui le vivent.
Quentin, merci de nous recevoir dans ta ferme à Saint-Félix, dans la vallée du Dourdou, pour nous échanger ta passion pour les vaches laitières et les vaches à viande.
On est sur la ferme de Saint-Félix, à Saint-Félix-du-Dourdou, sur la commune de Calmel-Sévillala. Je suis Quentin Arvieux, fils d'exploitant. Je me suis installé en décembre de l'année dernière, en GAEC avec mes parents, sur une exploitation vache laitière, vache à viande, avec un atelier transformation laitière, une partie vente directe de viande. Non, la viande, on l'a fait abattre, on l'a fait découper dans un atelier de découpe. On s'occupe juste de la revente. Après, sinon, toute la partie fromage est transformée dans l'atelier qu'on a.
Et tu transformes uniquement une certaine quantité ?
Je transforme à peu près 30 000 litres par an, sur une production totale de 650 000 litres. C'est un petit pourcentage de la production de lait de l'exploitation.
Il y aurait le débouché pour en vendre plus, mais c'est qu'on a un peu fait le choix de se diversifier pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme on dit.
Pour ne pas baser tout sur le fromage.
Pour ne pas baser tout sur le fromage, parce que la vente directe, c'est quand même assez aléatoire, et pour ne pas non plus baser tout sur la vente de lait, parce que c'est pareil, quoi, c'est des cours et on ne sait pas combien sera payé le lait dans un an ou dans deux ans, quoi.
Et tu peux nous dire qu'est-ce que tu produis comme fromage ?
On produit la tome, yaourt, fromage blanc, lactique, et après un fromage qu'a créé ma copine, c'est entre du brie et du camembert un peu.
Ah, c'est une pâte molle. Tu nous en as pas parlé.
Et il y a aussi ma compagne sur l'exploitation, en aide familiale pour le moment.
D'accord, elle vous aide sur l'exploitation.
Voilà. Ainsi qu'un apprenti, un salarié à mi-temps. Et mes parents.
Tu as choisi ce métier quand, pourquoi ?
Je suis né dedans, ça m'a toujours plu et voilà, j'ai décidé d'en faire mon métier.
Tu as fait une formation pour ça ?
Oui, j'ai fait un bac pro à la Cazotte. Et après, j'ai fait un an en Savoie, là où j'ai fait un CS bovin lait pour me spécialiser dans la production bovin laitier, parce qu'à la Cazotte, c'était un bac pro spécialité au vin, et moi, vu que je voulais faire du bovin, et j'ai rencontré ma copine en Savoie, elle est redescendue avec moi.
Tu nous racontes la vie au quotidien d'un jeune éleveur ?
On attaque entre 6h et 6h30 par la traite et donner aux animaux. Et après, dans la journée, ça dépend le temps. Sinon, c'est soit travaux dans les champs, soit entretien du matériel, des bâtiments ou tout ça. Et après, le soir, vers entre 4h30 et 5h, c'est de nouveau la traite et regarder que tout le monde aille bien et traire tout le monde. Et puis on finit le soir entre 7h30 et 8h.
Et la traite, tu traies à la main ou tu as une machine ?
Non, avec une machine. Je traie 16 vaches à la fois. On a 85 vaches laitières et 35 vaches à viande.
Et des taureaux pour tout ce petit monde ?
On a 3 taureaux au brac. Les vaches laitières, on me fait de l'insémination parce que les taureaux Holstein, c'est trop dangereux. Mon père a fait les frais l'autre année, s'est fait charger dans la stabu et ah. Il l'a rabalé sur toute la longueur de la stabu et depuis on a dit qu'on n'en gardait plus. Ils ont un très mauvais caractère. Les laitières, on a principalement des Holstein et quelques Montbéliardes. Et sur les vaches à viande, on a que des aubrac, des belles vaches et rustiques. C'est une race qui nous a plu et c'est une race qui est rustique, facile à élever et qui pâture très bien, même dans des fortes pentes, qui passe beaucoup dans les bois et les sous-bois. Et c'est pour ça qu'on a choisi une race comme ça. La mise à l'herbe, elle est au mois de mars et là, elles y sont encore. Jusqu'au 15 novembre, à peu près, elles sont dehors.
Et donc, pour les vaches à viande, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de travail ?
Apporter de l'eau. Après, l'été, même en cette période, on leur apporte à manger. On a des râteliers, on leur donne à manger dans les parcs, dehors. Ça s'élève quand même relativement seul, quoi. pas autant de travail et d'astreinte que sur des vaches laitières. Après, il faut faire attention quand c'est le moment des vélages. Il faut quand même être présent pour les vélages, mais qu'il n'y ait pas de problème. Mais en normal, on vend entre 5 et 7 veaux par an. Et on en a une bonne trentaine de veaux. Parce qu'on garde un peu de renouvellement. Donc, en normal, on engraisse 30 veaux et ouais, à peu près 30% quoi, est passé en vente directe. Le reste est vendu à la coopérative.
D'accord.
Et donc vos aubraques, qui sont dans la nature une bonne partie de l'année, elles sont considérées comme de la viande bio ?
Non, de la viande conventionnelle. Eh bien, elles sont nourries par des produits qui sont conventionnels et non bio.
Parce qu'elles ne trouvent pas assez dans la nature de quoi se nourrir ?
Non. Bon, après, au printemps, si, entre le 14 juillet et le 20 juillet, d'attaquer à donner du foin ou de l'enrubanner dehors dans les parcs. Mais sinon, avant, elles trouvent... uniquement dehors à manger quoi. L'été, quand ça sèche quoi. Elle mange, mais quand c'est de la paille, elle ne mange
plus. Dans une vallée ici.
Il
va y avoir de l'herbe.
Elles sont dans les coteaux, elles sont pas dans la plaine.
Ah bon.
Et est-ce qu'on leur donne du grain aux vaches ?
Aux viandes, non. Il n'y a que les veaux qui ont de la ration. Eux, par contre, on met des nourrisseurs dans les parcs où il n'y a que les veaux qui peuvent rentrer dans le nourrisseur. Pour aller manger du grain, pour qu'il soit... Ça nous permet d'avoir, au moment du sevrage, entre 6 et 8 mois, d'avoir déjà des veaux pas maigres, quoi, un peu engraissés, et ça finit de s'engraisser plus rapidement.
Ça veut dire quoi, le sevrage ?
C'est le moment où on le retire de la mer. Soit on les retire entre... On essaye de leur laisser au moins un mois de repos entre le moment où on enlève le veau et le moment où elle va de nouveau veler. Pour qu'elle ait un moment de repos, qu'elle puisse se tarir correctement et qu'elle n'ait pas de problème pour la prochaine lactation. Sur la partie des laitières, on les tarit 2 mois, toutes les laitières, mais vu qu'elles ne veulent pas toutes d'un coup, on a les vélages qui attaquent à partir du 20 août. Et qui se finissent en temps normal en février, mi-février, fin février. Et du coup, on a des périodes, le mois d'août, on n'en traite pas beaucoup, mais on traite tout le temps des vaches. Parce qu'elles ne sont pas toutes taries en même temps. Toute l'année, on se lève le matin pour aller traire.
Et vous arrivez à mener tout de front, parce qu'il y a quand même pas mal de surface autour que vous travaillez aussi, là.
Eh bien, on essaye. On a une cinquantaine d'hectares à peu près de luzerne. Après, on fait une trentaine d'hectares de céréales. Et après, on fait une partie dans la plaine, ce qui est irrigable. L'hiver, on fait du riz gras. Et l'été, on fait une vingtaine d'hectares de maïs. On ensile le riz gras, après on implante le maïs et on ensile le maïs et on réimplante du riz gras.
Donc en silage de maïs et de riz gras, c'est pour nourrir les bêtes
Voilà, pour nourrir les bêtes l'hiver.
D'accord. Elles apprécient ?
Ah oui. Surtout
le
maïs.
C'est fermenté ?
Voilà, c'est fermenté. Après, on a tout ce qui est parcours, prairie naturelle avec les parcours où on fait pâturer. Il y en a une partie qu'on fauche et qu'après on lâche les vaches dedans.
Et comment tu les mènes aux pâtures ? Avec le bâton ou...
Les aubraques, quand c'est pas loin, ouais. Sinon, après, c'est... Parce qu'on a un site qui est à 8 km et on les amène en bétaillère. Sinon, après, les laitières, elles pâturent que autour de l'exploitation. On les clôture, on fait un pâturage rationné. Tous les jours, on avance un peu le fil.
Et quelle relation t'as avec tes vaches ?
On les aime bien, sinon on les aurait pas.
Et c'est réciproque ou elles te font des coups un peu ? Tu parlais du taureau et de ton père l'année dernière.
Ah, mais si, les vaches, surtout les vaches laitières, elles sont quand même très dociles, vu qu'on les manipule 2 fois par jour, tous les jours. C'est quand même des bêtes très dociles. J'en ai une que j'appelle à l'autre bout de la table, elle se lève et elle vient me voir. Quand
comment tu
l'appelles par son prénom ?
Olia.
Si elle est bien lunée, elle vient. Voilà, après c'est comme tout, on dit que les bêtes sont le reflet de l'éleveur. Si on essaye d'être calme, on a des bêtes calmes. Si on est sauvage, on a des bêtes sauvages.
Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier que tu vis aujourd'hui ?
C'est un peu un ensemble de tout. C'est les animaux, le travail dans les champs, le matériel, un peu tout ça quoi. Après, c'est pas tous les jours facile, mais il y a des beaux jours comme des mauvais jours, et comme dans tous les métiers.
Tu en es content quand même?
Ah oui, ben, sinon je n'aurais pas fait ce métier.
Donc tu le conseillerais si tu as des enfants ou tu en as peut-être?
Non, pas pour le moment. oui, bon, après, si jamais, je les forcerai pas à le faire, mais s'ils veulent le faire...
Tu les empêcherais pas?
Non, mes parents nous ont pas empêchés, mais nous ont pas forcés non plus.
Nous ont, c'est-à-dire?
Ben, mon frère aussi est dans le milieu agricole, il travaille pas sur l'exploitation, mais... Là, mes parents sont partis en vacances là, pendant 3 jours, et le matin, ils viennent me donner un coup de main pour donner le temps que moi je traite. Parce que d'habitude, c'est mon père qui le fait. Et du coup...
Donc vous arrivez à prendre des vacances?
Vu qu'on est plusieurs, on arrive à tourner et à partir un peu en vacances. On part pas 5 semaines par an, mais on essaye de partir au moins 10 jours dans l'année, étalés sur plusieurs fois, entre une semaine et 10 jours.
Dans les jeunes qu'on a pu rencontrer, plusieurs fonctionnent en CUMA, c'est-à-dire qu'ils partagent tout pour éviter d'avoir trop de frais. Est-ce que c'est ce que tu...
Oui, on a beaucoup de matériel à la CUMA, oui. À la CUMA du Viala. C'est sûr que c'est des économies de frais. Le matériel au jour d'aujourd'hui coûte très cher. Et,
ça sert à quoi?
On achète du matériel à plusieurs, et du coup, du matériel qu'on n'a pas besoin tous les jours, mais qu'on est obligé d'avoir. Et ça nous permet de le payer moins cher et enfin, de diviser le coût global du matériel en plusieurs personnes. Et du coup, ça réduit les coûts pour tout le monde.
Et oui, mais si toi, tu le fais pas périr et que le voisin le casse, hein, qui c'est qui le répare?
C'est celui qui casse et qui répare.
Pas tous égaux face aux lois de la nature. J'en connais un niveau mesure, il a vraiment ce qu'il faut. Quand il va dans le Limousin, il fait un carnage. Elles sont comme des dingues, comme on manque de fourrage. Au salon à Paris, il remporte tous les prix. Ses paillettes, c'est de l'or, elles se vendent au prix fort. Il est beau, il est beau, qu'est-ce qu'il est beau mon taureau. Il va pécho, il va pécho, pécho le beau. Serpile remarquable, les étalons charolais n'osent même pas le défier. Blonde Aquitaine, au bras court, mon Béliard. Chaque jour de la semaine, c'est le journal du Hard. Il est beau, il est beau, qu'est-ce qu'il est beau mon taureau. Il va pécho, il va pécho, pécho le veau. Il est beau, il est beau, qu'est-ce qu'il est beau mon taureau. Il va pécho, il va pécho, pécho plus que Rocco. Dans la journée, déjouer l'âme, voir la libée, devenez à terre.
arrive ma règle voleur. Approchez tous, n'ayez pas peur. Rentrez dans la secte.
Hippo, hippipoli, rigolo, mpipoli, a mis du tempo aussi à Bill au pipopolissa. Foligère, solitaire, solide, fier. Nouvel adepte de la secte, afin de l'être, il a dû faire preuve de sang-froid durant des épreuves, sans effroi plongé dans ses fleuves pour draguer des piranhas, veuves plus flippantes que Fantomas. Il a dû boire toute l'eau d'un lac, chercher des œufs sur l'île de Pâques, fermer les yeux face aux cieux dans l'espoir facétieux de recevoir une bise ou une claque. Attraper la jaunisse, la lèpre, la chaude pisse, la peste, et mater les téléfilms suisses à Budapest, ainsi à libérer des instincts primaires emmurés dans sa chair sans suer de sang, sincèrement sans se censurer.
Très compétent,
hippocampétant, encore vivant, est enivrant, te délivrant vite. Il fait désormais partie de la secte phonétique. Dites merci pour ce récit de son parcours initiatique.
Pour jouer les âmes, prendre une sorcière, après beatboxing dans la journée, et jouer la banalité, devenez adeptes. Si votre vie manque de bonheur, si quotidien rime avec bonheur, approchez tous, n'ayez pas peur, rentrez dans la secte.
Donc là, tu veux nous faire visiter. Quoi raconte-nous, on va aller voir là.
Ben, on va faire un petit tour dans l'étable et voilà, voir un peu les vaches, les veaux et.
Elles ont besoin d'être traites ?
Eh ben ouais, elles ont plus le matin que le soir parce qu'il y a plus d'écart pendant la nuit, mais elles ont les mamelles qui les tirent un peu, alors du coup elles montent quand même facilement.
Bon, dis-moi pourquoi tu n'as pas mis de robot automatique pour traire ?
Parce que moi, je voulais pas perdre le contact avec les bêtes. C'est quelque chose, ça, un robot. Je préfère être dans une salle de traite que derrière un ordinateur. Parce que le temps que nous, on passe à traire, quelqu'un qui a un robot, il le passe derrière l'ordinateur. Je rentre par là. Elles se mettent comme ça. Quand elles rentrent, quand même relativement toutes seules, mais après, trois coups de bâton pour qu'elles finissent de rentrer. Et on ferme la porte. Elles se mettent là où elles ont à se mettre à chaque fois. Et si celle de devant elle s'est pas mise au bon endroit, celle de derrière la pousse un peu pour la mettre en place. Hein. Les jeunes, il faut les faire rentrer au milieu des vieilles, comme ça elles apprennent à se placer.
Mais dis-moi, si j'étais vache, là je regarderais le mur en béton pendant toute la traite ?
Ouais, ça dure pas. Ça dure 10 minutes hein, par vache.
Tu pourrais pas me mettre une BD ou un peu de couleur hein ?
Ouais, la couleur elles aiment pas les vaches.
Ah bon ?
Non.
Aucune couleur, je crois que c'était que le rouge.
Non, les couleurs vives, elles les aiment pas. Elles aiment bien les couleurs un peu neutres. Et on dit que le taureau, il aime pas le rouge, mais si t'arrives en jaune fluo, il t'aimera pas non plus. Elles aiment pas les couleurs vives.
Je vois pas les enceintes, tu as pas mis de musique ?
Pas encore.
C'est prévu ?
Ouais.
Tu veux la mettre comme musique ?
Non, mais juste dans la salle de traite, pour nous, le temps contré.
Ah, pour vous, pas pour elle ?
Non, après, une vache, le bruit... Même là, quand on est au milieu de l'étable, il n'y en a pas quoi. Enfin, c'est elles sont calmes. Même le bruit, je pense que. Enfin, après, si, il y en a qui le remettent, mais c'est une habitude. Nous, on a toujours eu sans bruit. On ne se porte pas plus mal. On repose les griffes, on appelle ça les griffes avec les quatre manchons. On les pose sur ce qu'on appelle des plateaux de lavage. Ça fait un peu comme la forme d'un pied et il y a des geysers à l'intérieur qui envoient de l'eau. Et la griffe aspire et il y a trois cycles, rinçage, lavage avec de l'eau très chaude et acide ou alcalin. Et après, rinçage à l'eau froide pour enlever tout ce qu'il peut y avoir. Et c'est après chaque traite.
Et la machine repère automatiquement quand le pied est vide ?
Oui, il y a un système de... Il y a des compteurs et qui détectent quand ça tombe en dessous des 300 grammes minute. La griffe est automatiquement retirée avec un système de piston à air comprimé qui tire sur une ficelle qui fait remonter la griffe.
Et est-ce que tu vérifies les mamelles avant de les mettre à la salle ?
Ben ça par contre, on les nettoie toutes. Hein. On les, dans le protocole de traite, si on peut appeler ça comme ça, on mousse, on passe avec un bout de lavette pour nettoyer la mamelle et après on tire les premiers jets pour vérifier que le lait soit blanc, sans grumeaux. Et on a des bidons pour écarter le lait des vaches à problème.
Si t'as une mamelle.
Mais antibiotiques, avec des seringues intramammaires. Et le lait est jeté le temps du traitement plus ces 4 jours de délai d'attente. On la teste avec un test rapide pour savoir si le lait est élevé en cellules ou pas, pour savoir si on peut le renvoyer au tank.
Et le tank est vérifié par des observateurs extérieurs ou des contrôles ?
On a 4 prélèvements par mois de la laiterie qui nous vérifient les cellules, le taux de matière grasse, le taux de matière protéique, les butyriques et la cryoscopie. Par contre, sur toutes les levées, ils font un prélèvement pour vérifier qu'il n'y ait pas d'antibiotiques dans le tank. À 100% du lait et non antibiotiques, parce que sinon, c'est... si on envoie du lait antibiotique dans le tank, on paye le camion remorque.
Et le camion passe tous les combien de temps là, vis-à-vis le tank ?
Tous les 3 jours.
Et il part où le lait quand il part d'ici ?
Le nôtre, il part à Montauban.
Et après, tu sais ce qu'il vient ?
Non. Il y a 2 Montbéliardes et après des Holstein.
Et combien ça pèse un veau à la naissance ?
Entre 35 et 50 kilos pour un croisé.
Et tu vas de temps en temps pour sortir les pattes ou tu n'as pas besoin ?
Ouais, si ça se passe bien, on laisse faire. S'il y a un problème, on intervient et on l'aide.
Et tu sais faire ?
On sait faire depuis qu'on est petit, quand on est né là-dedans.
Pas les césariennes ?
Non, ça après, s'il y a vraiment un gros problème, on appelle le véto. Mais c'est quand même très rare, c'est moins d'une fois par an une césarienne.
Et il y a des sièges de temps en temps ?
Ah oui, des fois il faut repousser le voile intérieur, le faire tourner pour le sortir dans le bon sens.
Et alors, ça fait quoi de vivre ça ?
C'est pas facile, mais quand on y arrive et qu'on sort le veau en vie et que la vache et qu'on n'a pas abîmé la vache, on est content que tout se soit bien passé et d'être arrivé. Il y a des fois, on est moins content. Alors sur une laitière, on va la garder, il faut savoir qu'on la garde 2 ans. Enfin, les 2 premières années, elle ne vèle pas, elle vèle qu'entre 24 et 28 mois. Et après, on la garde entre 2 et 5 lactations. Elle part, elle a 7 ans.
Et quand elle part avec le camion à la boucherie ?
Ouais.
Pour service bien rendu, on va vous croquer, c'est ça ?
Et ouais, mais...
on achète du bœuf en boucherie, mais on mange de la vache ?
Ça dépend, si c'est un vrai boucher et qu'il est honnête, c'est du bœuf. Ou sinon, il dit que c'est de la vache. Parce qu'un bœuf, c'est un mâle castré et engraissé. Ça met très longtemps à venir. Un bœuf, il faut compter au moins 4 ans pour qu'il soit joli. Quoi.
Tu vends des veaux aussi pour la consommation de viande ?
Les croisés ou les mâles, on les vend à 1 mois. Mais ils partent chez des engraisseurs. Nous, après, on les engraisse pas parce que ça ferait trop de travail. Et puis, ils les engraissent au lait en poudre. Et nous, on n'a pas la place et on n'a aussi pas l'envie de s'occuper de ça. Dans l'auge, on met un silage de raie gras, un silage de maïs, une botte de luzerne et une demi-botte de trèfle enrubané. Avec 250 kg de ration, moitié tourteau, moitié graines produites sur exploitation. On en donne assez pour qu'elles en aient pour toute la journée et toute la nuit. On appelle un bol mélangeur, on met tout dedans et il mélange, il fait une soupe et on distribue ça.
Et tu distribues comment ?
Avec. Il y a un tapis sur le côté et on passe dans le couloir avec le tracteur et ce bol là et il y a un tapis sur le côté et ça dépose directement dans l'auge devant le cornalis.
Ces grosses boules qu'on voit au milieu là.
C'est les abreuvoirs pour pas qu'elles les salissent trop vite. Elles appuient sur la boule, elles ont l'eau dessous. Nous on a la chance d'avoir un puits, c'est de l'eau qui vient du puits, mais quand le puits se trouble, on prend l'eau du réseau. Là quand elles sont dedans, on voit celles qui sont couchées ou debout dans l'air paillé, c'est qu'elles ruminent. Celles qui sont debout à l'auge, c'est celles qui mangent. On dit que quand une vache est couchée et qu'elle rumine, c'est à ce moment-là qu'elle fait le lait.
Oula, c'est pas les mêmes là.
Non, ça c'est les aubraques.
Jolie corne.
Ouais, on a fait le choix de les garder, il y en a qui les enlèvent. C'est plus dangereux mais c'est plus esthétique.
Et ouais. Et alors elle peut pas rentrer et sortir comme elle veut là.
Et là non, mais celle-là on les a rentrées, elles étaient dans un parc où c'est encaissé et ça voit pas beaucoup le jour et vu qu'il y a eu des fortes pluies, elles étaient dans la boue et on a préféré les rentrer que les laisser dehors.
C'est ça qu'on appelle les vaches aux yeux maquillés ?
Voilà, c'est ça.
qu'on voit qu'elles ont le mascara autour des yeux.
Et alors, comment tu anticipes une mauvaise réaction de la vache?
Les aubraques, c'est surtout quand elles ont les veaux naissants. Si on veut aller voir le veau, il ne faut pas lâcher la vache des yeux. Parce que des fois, elles ne sont pas très aimables. Et surtout avoir tout le temps un bâton dans les mains, ça peut aider. Un coup sur le nez ou sur les cornes, ça la fait un peu reculer. Ça arrive qu'elle charge.
Les cornes en avant?
Oui.
D'accord.
Là, il ne faut pas se faire attraper.
C'était déjà arrivé?
Chargé, oui. Attrapé, non. Heureusement. Et pour nous, c'est un critère de sélection. Quoi. Une vache qui a vraiment un trop mauvais caractère, elle part. La vie d'un éleveur vaut plus que la vie d'une vache.
Elle meuble pas beaucoup, hein. C'est silencieux. Non,
dans une étable, il n'y a jamais de bruit. S'il y a du bruit, c'est qu'il y a un problème.
Et alors, comment tu nettoies l'étable alors qu'elles sont à l'intérieur?
On les attache aux cornes à 10 et après, avec le télescopique, on cure derrière.
Et les ventilateurs que l'on voit, ça sert à quoi?
C'est l'été. Pour ventiler le bâtiment, pour qu'il fasse moins chaud et qu'elle soit plus agréable.
Et les taureaux, tu les as où?
Eh bien là, on en a un dans les aubraques. On a Homer, il est couché au fond là-bas. Il doit faire une bonne tonne. Ouais.
Oh oh. Et alors Homer, il est sympathique?
Tu peux t'asseoir sur le dos quand il est couché, le gratter, il va se lever.
Bon, ami auditeur, venez gratter le dos d'Homer quand vous voulez.
Après, nous, on le fait parce qu'on le connaît, mais... Après, en temps normal, les gens en ont peur. Les taureaux, même des aubraques, c'est quand même... Surtout avec les cornes, ça fait quand même des vaches imposantes.
Qu'est-ce qu'il est beau mon taureau, il va pécho, il va pécho, pécho le volo. Il est beau, il est beau, qu'est-ce qu'il est beau mon taureau, il va pécho, il va pécho, pécho plus que...
Il y a le maquignon qui passe et il regarde les vaches qu'on engraisse. On lui demande s'il les veut ou s'il les veut pas et s'il les veut à combien. Et si ça nous plaît, la semaine d'après, il vient les chercher.
Et il les pèse ou c'est juste à vue d'œil?
Non, au bâtiment c'est à vue d'œil, après on est payé sur le prix carcasse. Au moment, sur des veaux gras, on tourne aux alentours de 5€ du kilo carcasse.
Combien?
5€ du kilo carcasse.
Mais c'est vendu combien chez le boucher?
Après c'est le boucher qui fixe le prix.
C'est pas tout à fait pareil, il y a quand même une marge importante.
Après, il y a quand même le coût d'abattage, le coût de découpe.
Donc ça te paraît justifié quand tu vas chez le boucher, si tu y vas, pour que tu vois la même viande?
À 5€ encore, ça va. On a des années, c'est moins cher payé que ça.
Ah oui.
Pour le moment, le marché du gras se tient bien. Et bien là, on est au bout de la stabule avec les sorties des racleurs, la fumière et les deux silos. Le silo d'herbe et le silo de maïs.
Qu'est-ce que vous avez fait là-bas?
Et bien ça, c'est...
C'est une piscine olympique, ça, c'est pour les JO?
Ça fait partie de mon projet d'installation, c'est une fosse à lisier pour la mise aux normes et en même temps pour récupérer les bouses des vaches dans les raclages. C'est là où elles passent le plus de temps, là où elles mangent. Et on fait passer les racleurs 2 à 3 fois par jour qui les poussent dans un caniveau qui part directement dans cette grande fosse.
Mais comment dans le caniveau c'est poussé?
C'est poussé par une pompe qui prend du jus de la fosse, qui la monte jusque là et qui crée un courant pour embarquer tout à la fois.
Faut pas tomber dedans, hein?
Non, quand la pompe en marche, faut pas tomber dedans.
Et le racleur, c'est un racleur automatique?
Ouais, on a 2 racleurs à cordes et un racleur hydraulique.
Pas tous égaux face aux lois de la nature. J'en connais un niveau mesure. Il a vraiment ce qu'il faut. Quand il va dans le Limousin, il fait un carnage. Elles sont comme des dingues, comme on manque de fourrage. Au salon à Paris, il remporte tous les prix. C'est paillettes, c'est de l'or.
Merci Quentin pour cette visite tout à fait intéressante dans ton exploitation et tout ce que tu nous as raconté sur ta passion. La semaine prochaine, nous nous rencontrons avec Maxime au Plot, sur les monts de la Cône. Maxime a des brebis et une passion pour son métier et pour l'accueil dans sa ferme. Si vous plaisez à écouter cette émission, si vous avez d'autres idées, des personnes à rencontrer, si vous voulez nous faire des commentaires, n'hésitez pas, nous avons besoin de vos retours. Nous passons beaucoup de temps à nous déplacer dans le département, à enregistrer, à monter les émissions. Et pour nous motiver davantage à poursuivre, merci de nous écrire. parole au pluriel, rural au pluriel, @gmail.com. Avec Chantal, Christian et Pascal, nous aurons plaisir à vous répondre.